Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis Léonard et vous êtes aussi avec Charles Gave.
Bonjour. Bonsoir, bonjour.
Ça va ?
Ça va, il y a le chien qui voulait pas bosser.
Oui, c'est le dernier à être rentré dans le studio, il est un peu paresseux aujourd'hui.
Il était rentré, il avait l'air de vraiment venir écouter comme besoin d'un trou dans la tête, pauvre vieux.
Oui, bah c'est-à-dire que d'habitude il y a Emmanuel dans l'autre salle, donc il nous fait un cinéma pour savoir ah, est-ce que je rentre dans le studio, est-ce que je reste avec
là,
Emmanuel,
malade,
je sais
alors.
Pas. Là on est sans Emmanuel aujourd'hui, qui j'espère va se rétablir promptement. Et du coup, bah je sais pas, il est plus habitué.
Il traînait là.
Il a traîné la patte, voilà. Il savait plus quoi faire.
Enfin, on vous tient au courant.
Nous avons pour commencer cette émission une question d'un abonné, en l'occurrence d'une abonnée que j'ai sélectionnée. Donc cet abonné, c'est, je note son pseudo, c'est Françoise Mottet. Voilà, je ne sais pas d'où elle vient, qui c'est, mais...
Je connais Françoise Mottet, j'espère que c'est peut-être la même, j'en sais rien.
Je pense pas. Enfin, peut-être, on sait jamais. Françoise nous dit, si par bonheur, nous quittions l'Union Européenne, comment envisageriez-vous la tenue du franc et de l'économie à moyen terme, c'est-à-dire en gros 3 à 7 ans, quoi?
Alors c'est une excellente question, comme on dit toujours dans les débats politiques, et donc on répondait à côté, mais je vais essayer de répondre vraiment. La France est un pays extrêmement riche, qui a beaucoup de choses que les étrangers ont envie d'acheter. Je sais pas, des vignobles, des beaux immeubles, des terrains, des chalets à la montagne, ce que vous pouvez. Donc ce qui se passe, c'est que quand une monnaie sort d'un taux de change fixe, en principe, elle commence à baisser parce que bon, les gens ont un coup de panique en se disant ça va être n'importe quoi, c'est l'hyperinflation. Et à ce moment-là, il y a des capitaux assez importants qui se présentent assez rapidement pour acheter ces actifs. Donc, si vous voulez, les flux de capitaux ont tendance, la monnaie se pète la gueule, et les flux de capitaux ont tendance à la faire remonter relativement rapidement pour peu qu'il y ait quelque chose d'intéressant à acheter dans le pays. Et donc... Bon, il y a un effet, ça se met un effet racine carrée, vous voyez, vous tombez, puis pouf, et puis ensuite ça vient comme ça, ça remonte, et puis ça vient comme ça. Et ensuite, ça dépend de la politique monétaire, et de la politique budgétaire, et de la politique du travail. Si le pays, à la place d'être mal géré, très mal géré, devient simplement mal géré, c'est une grosse amélioration, quoi, parce qu'il ne faut pas oublier que les marchés sont faits à la marge, ben à ce moment-là, si la France devient un pays où ça devient pas cher de produire, les Suisses mettront peut-être leurs usines en France plutôt qu'en Suisse, vous voyez ce que je veux dire, ou les Allemands. Donc, et puis, si la France n'imprime pas du papier bonnet comme on l'a fait depuis 4 ou 5 ans, l'inflation baissera. Donc, il y a dans l'histoire de des dévaluations, enfin, puisque c'est de ça dont on parle, dans l'histoire des dévaluations, il y a des dévaluations ratées et des dévaluations réussies. Si vous laissez flotter la monnaie et que vous continuez à imprimer de l'argent comme un malade, elle continue à se péter la gueule. Si vous dévaluez la monnaie et que vous faites, à partir de maintenant, la monnaie montera de 2% par an, ou la quantité de monnaie montera de 2% par an, et puis c'est tout, ça marche. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas toujours la même sortie. Si on dévalue avec M. Mélenchon, ça ne sera pas le même résultat que si on dévalue avec Mme Thatcher. Quoi. Mais ce que je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Et donc, ben, on verra à ce moment-là.
Oui. Oui, c'est sûr, ça dépend d'énormément de facteurs.
Ça dépend d'abord, est-ce que si M. Mélenchon arrive au pouvoir, les étrangers vont peut-être pas se précipiter pour acheter des actifs en France.
Oui, c'est ça.
Donc,
forcément.
Tout ça, c'est. Donc, vous avez plein d'histoires d'évaluations ratées et vous avez des dévaluations réussies.
Oui, oui. Et puis, pareil, évidemment.
Par exemple, les dévaluations d'Asie dans les années. À la fin des années 1990, où l'Asie avait une crise monétaire terrible, ça a été, pour la plupart d'entre elles, des dévaluations réussies, parce qu'elles ont quitté le taux de change fixe, elles ont suivi une politique modernaire. Maintenant, elles ont des comptes courants excédentaires, pas d'inflation, des budgets en excédent, enfin bref, tout va bien. Quoi.
Ouais, on peut très bien imaginer que si jamais on revenait au franc avec Mélenchon, et on imprimerait beaucoup de monnaie, voilà un poids de l'État
encore
plus important
là,
dans l'économie. Enfin, voilà,
c'est le Venezuela, c'est l'Argentine, c'est les pays que M. Mélenchon a ou Cuba.
Ouais. Donc ça dépend un peu avec qui on revient au franc. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et qui sera aux manettes à ce moment-là,
ouais. Donc voilà pour la question de notre abonné. Je rappelle donc à nos abonnés que vous pouvez encore sous cette vidéo proposer votre question. Je regarderai donc ensuite les commentaires, voir quelles questions sont les plus intéressantes, les plus pertinentes et les plus appréciées aussi. Et puis je la poserai à Charles la semaine prochaine. Donc voilà, on recommence l'expérience. Et merci à Françoise pour sa question. Le sujet suivant, c'est un sujet que nous n'avons pas énormément abordé en grande partie aussi à cause de, on va dire, la politique des différents réseaux sociaux et notamment YouTube. C'est la question des vaccins sur le Covid. Ça a été pendant un moment très difficile, ne serait-ce que d'émettre un doute sur
de prononcer le nom.
Voilà. Si alors déjà prononcer COVID, le nom, pouf, c'était
vous,
déjà
vous
compliqué.
Aviez déjà signalé.
Mais c'était encore plus difficile d'émettre un doute, d'une part sur l'efficacité réelle de ces vaccins et d'autre part sur la potentialité aussi d'effets secondaires. Or, ce que je note, c'est une chose assez positive, c'est que Arte, donc une chaîne du service public, a fait un reportage il y a 2 jours, je crois, au moment où on tourne cette émission, sur justement les effets secondaires du vaccin. Mmh. Donc on a des chiffres dessus. Donc en France, ces vaccins-là, c'est 150 millions d'injections, ce qui est beaucoup. 190 000 effets secondaires, dont 25% de graves. Et dans ces effets secondaires graves, il y en a qui sont réversibles, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont paralysés.
La question essentielle, c'est est-ce qu'il y a eu plus de morts à cause du vaccin que qu'il en aurait eu si on ne l'avait pas fait?
Je pense que les vaccins ont quand même aidé dans une grande partie à limiter le nombre de décès.
C'est pas sûr, parce qu'on ne réussit pas à avoir les statistiques du nombre de morts des gens qui se sont fait vacciner et des gens qui ne se sont pas fait vacciner. Parce que ça, il suffirait de faire un pourcentage et de voir. Il y a une grosse partie de la population française, les rebelles, là, qui ont refusé de se faire vacciner.
Oui.
Et ben donc, il suffirait de faire un sondage dans ces gens-là, puis de comparer un sondage dans les autres, et ce serait très facile de savoir. Est-ce qu'il y a des tendances et qu'on ne le fasse pas?
Je crois qu'il y a quelques statistiques dessus qui ne sont pas forcément toujours extrêmement précises, surtout que c'est compliqué de savoir.
Les gars, on n'a qu'à faire par exemple un sondage sur les gars qu'on a virés de l'hôpital. Il y en a un paquet, on verra combien sont morts par rapport à un sondage qui serait fait dans les gens qui n'ont pas été virés. On les connaît nommément, on peut aller les voir un par un.
Oui, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, surtout que c'est du personnel qui, j'imagine, était plutôt en bonne forme pour être justement en train de travailler. C'est plus chez la population assez âgée qu'il y a eu
c'est elle qui claquait, mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que sur les statistiques de mortalité, et en particulier les statistiques démographiques, la pyramide des âges, etc., on ne voit pas la trace de la...
Ah oui, non, ça c'est clair.
On ne la voit pas. Donc on nous a enfermés, ça a coûté 300 milliards, je ne sais pas combien, qui n'ont pas été perdus pour tout le monde d'ailleurs. Et sans qu'il y ait aucune justification, ça se voit nulle part dans les statistiques, quoi, c'est absolument extraordinaire. On vous dit qu'il y a eu plus de morts en 2021 qu'en 2020 ou je ne sais pas quoi, mais si vous faites la moyenne des 5 dernières années, il n'y en a pas eu plus, parce que 2019, il y a eu 8 très très peu de morts. Donc en France, l'année dernière, je crois... Il y a eu le taux de mortalité le plus bas depuis qu'on a les statistiques.
Mmh. Non, tout à fait, ça n'a eu aucune perturbation.
Mais il y a un statisticien qui a sorti un bouquin d'ailleurs.
Oui, aux éditions de l'Artilleur. Oui,
éditions de l'Artilleur. Et où il donne les chiffres, etc. Je ne saurais te recommander aux gens de le lire. Parce que, lui, il a travaillé sur les statistiques et pas sur des impressions. Mais pour revenir à la quasi-interdiction qu'on avait de parler de ces choses-là. Quelque chose qui va beaucoup arranger la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, c'est ce qui se passe avec YouTube, avec Twitter aux États-Unis.
Mmh. Ouais.
Parce que je ne sais pas si vous savez, quand on vous coupait le compte Twitter, l'explication officielle, c'était que le gouvernement n'avait rien à voir avec tout ça, que c'était Twitter qui, dans sa grande sagesse, avait décidé que c'était donc une décision de vous couper, mm-hmm. que c'était une décision du secteur privé, que le gouvernement n'avait rien à voir. Et puis maintenant, quand on se rend compte, à cause des auditions à la Chambre des représentants aux États-Unis, que le FBI avait avait 8 ou 9 personnes chez Twitter, que le FBI disait à Twitter, celui-là vous le coupez, celui-là vous le coupez, celui-là vous le coupez, et que le chef juridique de Twitter, qui a d'ailleurs été viré depuis par M. Elon Musk, qui me paraît une excellente chose, c'était l'ancien chef juridique du FBI. C'était le type qui était le grand responsable juridique. Donc on se rend bien compte que dans les dernières années, il y a une espèce d'interpénétration totale entre ces grands médias et les Twitter, YouTube, etc. Et qu'ils avaient passé une espèce de deal avec le Parti démocrate aux États-Unis et les gens comme il faut en France, les mêmes quoi, pour dire, ben écoutez, nous on peut pas vous censurer, disait les, puisque c'est interdit par la Constitution américaine, disait le FBI, mais par contre, on pourrait vous suggérer d'interdire celui-ci ou celui-là.
Ouais.
C'est-à-dire que le chef juridique du FBI, qui a été nommé ensuite à Twitter comme patron juridique, a volontairement violé la Constitution américaine qui interdit toute... Et donc, peut-être qu'on va pouvoir commencer à parler de choses et d'autres et que YouTube ne dira rien, parce qu'ils ont peut-être un peu peur.
Justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'enfin, les organes, comment dire, officiels, acceptent de parler de ce sujet, et ce qui était...
Acceptent que nous en parlions.
Acceptent que nous en parlions, mais enfin, là, il y a quand même Arte qui de son propre chef, a fait un reportage là-dessus, ce que je trouve être une démarche intéressante. C'est-à-dire que nous étions dans une discussion, enfin, même pas dans une discussion, mais c'est-à-dire dans un faux débat, où d'un côté, il y avait ceux qui disaient que ces vaccins étaient formidables, qu'il y avait absolument rien à dire dessus, que c'était indiscutable.
Mais ils ne pouvaient pas le savoir, puisque c'était des machins expérimentaux. Donc, oui, ils n'avaient pas la moindre idée. Ils nous disaient... Mais quand
c'était
vous
à partir
lisez,
de quasiment rien. Oui,
non, mais quand vous lisez les documents officiels de mis sur le marché de ces médicaments, ils disaient qu'ils ne savaient pas que c'était expérimental. Donc, eux, ils ne pouvaient pas savoir que c'était sans danger. Mmh. Et ils nous ont dit que c'était sans danger.
Mmh. Ouais.
Et ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle un crime?
Ça s'appelle à minima, en tout cas, un énorme mensonge, oui.
Non, mais ça s'appelle un crime, parce que s'il y a des gens qui meurent de ça, c'était pour gagner de l'argent qu'ils ont fait ça. 70 milliards de dollars, c'est pas rien, hein.
Non, c'est sûr. Après, c'est aussi un pari, c'est-à-dire qu'il y avait,
vous
y avait
pas,
des
vous
gens...
pouvez faire de tous les paris que vous voulez avec votre santé à vous.
Oui.
Mais quand mais vous êtes une autorité de santé, vous n'avez pas le droit de faire un pari.
C'est à partir du moment où on oblige les autres à se vacciner que ça devient...
Non, mais pas à partir du moment où vous forcez les médecins à piquer des gens... Alors que les médecins, dans leur serment, ils font le serment de d'abord de ne pas faire de dégâts. Donc, forcer les médecins à piquer un gars sans que le médecin sache qu'il y a exactement dans le produit, c'est condamné par les Nuremberg.
Oui, mais enfin, ça reste quand même marginal, quand même, le nombre d'effets secondaires, enfin, surtout graves, c'est quand même...
Ben, on n'en sait rien. Dans tous les pays du monde, vous avez cette augmentation extraordinaire des gens qui meurent, on ne sait pas pourquoi, entre 25 et 55 ans. C'est la catégorie des gens qui meurent le plus aujourd'hui dans toutes les statistiques démographiques, c'est, on ne sait pas de quoi il est mort, entre 25 et 55 ans. Et il n'y a pas d'enquête qui sont faites. Pourquoi, d'un seul coup, cette catégorie explose depuis 3 ans?
Vous êtes sûr de ces informations?
Mais complètement, vous pouvez aller sur tous les trucs.
D'accord.
Death from unknown causes. C'est-à-dire que le type, il est entre 25 et 55 ans, il est plutôt bien, puis pouf, il claque. Et on ne sait pas. Et tout le monde vous dit, oh oui, bah, ça doit être le temps, ou il a fait mauvais, ou l'hiver a été trop doux. Mais il n'y a pas d'enquête pour savoir s'il y a des types individuels qui cherchent en Angleterre, en Allemagne, et qui cherchent s'il y a un lien de causalité. Enfin, quand vous introduisez un nouveau produit avec l'ARN messager, etc., dont on ne sait pas ce qu'il est, quand vous met des produits dans le corps qui n'existent pas dans la nature, qui n'ont jamais existé, etc., contre lesquels on ne pouvait pas lutter, et puis qu'ensuite... Vous avez des gars qui claquent dans les 6 ou 9 mois après, vous dites qu'il y a peut-être une corrélation.
Peut-être, faut voir.
Mais il ne faut pas voir, il faut que les gouvernements, il faut que les sociétés de santé, c'est pas, il faut voir, il ne faut pas attendre tranquillement que ça se passe. Il faut qu'il y ait des enquêtes officielles menées par des gens sérieux et qu'on sache si oui ou non, il y a eu des criminels qui nous ont mis là-dedans, parce que si c'est le cas... Ben, je sais pas, il mérite en tout cas la prison et certainement de perte de pouvoir.
Il faut des vraies enquêtes, effectivement, sur ce.
Il faut des vraies enquêtes, il faut que la population les réclame.
À voir s'il y en aura. En tout cas, je trouve que là, il y a un bon commencement. On commence à pouvoir parler quand même de ce genre de sujet, ce qui est un peu rassurant parce que c'était
et
absolument impossible.
Le fait qui m'exaspère le plus dans tous ces gars-là, du style de ce qu'on a en France ou de ce qu'on a aux États-Unis ou de ce qu'on a en Angleterre, ils vous disent « Oh, on était en pleine panique, on a fait du mieux qu'on pouvait ». Mais c'est pas une excuse, les gars. Vous avez été mauvais. Et vous avez été introduire dans le corps des gens des médicaments dont on ne connaissait pas les effets. Personne ne vous forçait à le faire. Et ça ne touchait, c'était une maladie qui touchait que les types au-dessus de 80 ans.
Ce qui est très pernicieux là-dedans, c'est que...
Qu'est-ce qui leur donnait le droit de le faire?
Les gouvernants, peut-être, ne pensaient pas nécessairement à mal. Enfin, je ne sais pas. Maintenant,
mais on s'en fout, qu'ils pensent mal ou pas.
Ce qui est pernicieux, c'est la relation que beaucoup de personnes de pouvoir pouvaient avoir avec justement les grands dirigeants de ces entreprises.
Alors j'ai écouté Raoult.
Qui pouvait avoir du coup des bénéfices.
J'ai écouté Raoult, qui parlait pas de ça d'ailleurs, mais qui a fait une remarque que j'ai trouvée profonde dans une de ses interviews récemment. Je crois que c'était avec Perkoff d'ailleurs. Il a dit, vous savez, 95% des gens qui gèrent les hôpitaux, les choses comme ça, en France, sont des énarques. Ils ont arrêté de faire de la science en seconde. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Et tous ces gens qui travaillent dans les administrations, etc., ils sont dans une culture de l'obéissance. C'est-à-dire, ils progressent s'ils obéissent.
Mmh, ouais.
Et Raoult disait, la culture de la science, c'est une culture de révolte. C'est pas de révolte, mais de dire simplement « je suis pas d'accord ». Et je vais vous prouver pourquoi. Et donc, ces gens dans le pouvoir, qui sont dans une culture d'obéissance, haïssent à un point qui dépasse l'entendement les gens qui disent non. Parce qu'ils ont toujours été incapables de dire non à qui que ce soit.
Mmh, oui.
Ils pensent que la réalité, c'est qu'il faut obéir. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a toute une série de gars qui ont dit, ben moi j'effectue les ordres. Oui, ben non. Ben non. Il y a des moments où il faut dire non. Le but d'une éducation, être un homme, c'est savoir dire, une femme aussi d'ailleurs, les femmes elles ont un peu plus de facilité que nous d'ailleurs, à dire non. Parce que de temps en temps, les femmes elles doivent dire non. On peut pas dire oui tout le temps.
Oui.
Non, c'est une bêtise. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a été gouverné par une culture de l'obéissance et qui a essayé de faire taire ceux qui refusaient cette culture de l'obéissance. Et ben, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Donc on assiste à l'écroulement de ceux qui nous gouvernent de la culture de l'obéissance. Et je trouve que c'est une autre très bonne nouvelle.
En tout cas, sur ce sujet-là, je ne sais pas si ça va...
Mais on a eu ça sur tous les sujets. On a eu ça sur le Covid, on a eu ça sur l'économie, on a eu ça sur, sur la guerre en Ukraine. Il n'y a pas un sujet dans lequel on n'est pas obligé de se taire si on n'est pas d'accord.
Mais justement, ce qui va être intéressant, ça va être de voir si... Sur tous ces sujets-là, on va être capable justement d'avoir un dialogue entre gens qui ne sont pas forcément d'accord.
On a passé le moment du dialogue, c'est le moment du jugement. Il faut les mettre en jugement, parce que s'ils ont fait des morts, il faut qu'il y ait punition, parce que sinon ils recommenceront. Donc le moment du dialogue, c'était avant, mais c'est fini le moment du dialogue. Maintenant, c'est le moment du tribunal.
Ouais, mais ce à quoi je m'attends, c'est que si jamais il y avait... cela, si jamais il y avait justement le moment de la justice, l'État contournerait systématiquement le truc en disant, d'abord c'était un pass sanitaire, donc on n'était pas techniquement obligé de se vacciner, on pouvait avoir un test négatif, et puis ensuite pass vaccinal, mais on n'était pas obligé de
alors pourquoi de faire pour
tout faire.
Pourquoi ont-ils viré les gars et pourquoi les ont-ils pas réintégrés encore?
Ah, ça c'est intéressant.
Mais c'est inouï.
C'est très intéressant.
C'est absolument incroyable parce qu'on est le seul pays au monde encore
où
qui n'a pas réintégré les gars qui ne veulent pas se faire vacciner. Quoi.
Oui, ça c'est vraiment. Cette décision-là, encore aujourd'hui, n'a absolument rien de sanitaire.
C'est simplement une vengeance de la société de l'obéissance contre le gars qui n'est pas d'accord.
Oui, complètement. Donc voilà pour ce sujet. Je voudrais placer un autre sujet, c'est celui de la plateforme Salto. Alors c'est une plateforme qui a tellement de succès que vous ne la connaissiez même pas.
Faut dire que je vais assez peu sur Netflix.
Oui, c'est sûr, c'est pas tellement.
C'est pas savoir ce qui se passe avec Harry et Diana ou j'en sais rien. C'est pas des sujets qui m'ont toujours passionné. Je reconnais que
ouais.
J'ai un détrou dans ma culture considérable. Mais enfin.
Oui, pareil, faudra rattraper tout ça avec tout ce qui est télé-réalité. Ce que, justement, Salto permettait de rattraper si jamais vous aviez raté le direct. Donc, c'est une plateforme, en gros, j'explique, parce que si vous ne connaissiez pas, j'imagine que beaucoup de gens qui nous regardent ne connaissaient pas non plus. C'est une plateforme, donc française, financée en grande partie par l'État français, qui était partenaire de plusieurs chaînes, comme M6, je crois qu'il y avait TF1 aussi. Donc, l'objectif, c'était de concurrencer donc les autres plateformes comme Netflix, Amazon, Disney+, etc. Sauf que il n'y avait aucune production particulière qui venait de cette chaîne, enfin de cette plateforme, contrairement justement à Netflix ou que ce soit à Canal+, ou plein de d'autres plateformes. Et c'était essentiellement, puisque j'ai été client en moment, je peux en témoigner, c'était essentiellement une plateforme en fait de replay de trucs qui passaient à la télévision.
Quand vous étiez enfant.
Même tous les trucs plus récents. Mais je donnais l'exemple tout à l'heure, quand on en discutait, il y avait des excellents reportages qui étaient, documentaires d'il y a 10 ans, par exemple, de France 2, sur Apocalypse Seconde Guerre mondiale, des trucs comme ça, des documentaires historiques que je trouvais extrêmement intéressants, qui ne sont plus d'ailleurs disponibles en replay sur le site de France Télévisions, et qui étaient disponibles sur cette plateforme Salto. Il y avait plein d'autres trucs comme ça, ce qui évidemment n'était pas l'essentiel des programmes regardés. L'essentiel des programmes regardés, c'était les émissions.
J'essaie de comprendre. Donc, ils faisaient rien. Ils avaient juste un stock.
Ouais, c'est ça.
Et une façon d'aller chercher le stock avec un moteur de recherche. Et puis vous payez un petit quelque chose quand vous allez chercher quelque chose, c'est ça?
Ouais. Et de temps
en temps. Ils ont réussi à pas gagner d'argent?
Non, pas suffisamment.
Mais attendez, bougez pas. Je comprends pas très bien. Ça coûte rien.
Oui, ça coûtait que dalle. De temps en temps.
Non, mais je comprends pas. Attendez une seconde. Vous avez un stock de documents. Vous mettez un moteur de recherche dessus et vous mettez une carte de crédit. Je vois pas ce que l'État français va foutre là-dedans.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait.
Ça coûtait combien ce truc?
Bah, ça coûtait. Aux actionnaires, ça coûtait 135 millions. Et à l'État français, je sais plus, mais enfin, à peu près autant, quoi.
Ils ont réussi à perdre 270 millions avec un machin qui coûtait rien?
Ouais.
Comment ils ont fait?
Bah, je sais pas, mais en gros,
ils sont doués, les mecs.
C'est essentiellement entretenir des serveurs, quoi, qui doivent stocker les trucs.
Mais il y a des trucs sur des serveurs, oui, c'est
bon, de temps en temps, ils achetaient des droits pour les films, un peu comme ce que fait Netflix. Par exemple, cet été, il y avait les films Harry Potter dessus. Bon, voilà. Mais le choix était vraiment extrêmement restreint par rapport aux autres plateformes.
Non, mais que le choix soit restreint, je veux bien, mais c'était. Faible. C'est exactement comme d'aller chercher sur. Enfin, je veux dire, quelle est la différence avec aller chercher quelque chose sur Google? Google vous appuyez, ça vous coûte rien, ils vont chercher le pauvre. Enfin, je veux dire, il y a un moteur de recherche,
ouais.
Il y a un stock, le moteur de recherche va chercher dans le stock,
ouais.
S'il trouve ce que vous avez demandé, pof, vous mettez votre carte de crédit. Mais il y a besoin de quoi? Il faut deux mecs pour gérer ça.
À mon avis.
Enfin, j'en sais rien, moi, trois.
Non,
parce qu'il y en a qui prennent des vacances.
Ils étaient deux, parce que, en plus de ça,
Mais comment vous perdez deux à 300 millions
pas,
à deux?
C'était pas du tout ergonomique. En plus, le site, parfois, vous aviez justement une émission qui pouvait être intéressante. Vous aviez plusieurs saisons. Et en fait, au lieu de cliquer une fois sur l'émission et vous aviez toutes les saisons, il fallait cliquer une fois sur une vignette différente pour avoir
En plus, ils avaient mal programmé le truc. Mais je veux dire, du point de vue. J'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à prendre 300 millions.
Non, moi non plus, je sais pas. Ça a été fait avec.
Enfin, je suis sûr que ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Il y a dû y avoir des tas de directeurs avec chauffeurs, etc., qui étaient payés par les impôts. Mais.
Oui, j'imagine.
Une fois de plus qu'il faut.
J'imagine que ceux qui ont été chargés du projet ont été grassement payés. Ça, je me fais pas de problème pour eux. Mais c'est comme vous savez, il y a quelques mois, la Commission européenne a fait financer, je crois que ça a coûté 200 000 euros, je crois. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est 200 000 euros. Ils ont filé 200 000 euros à des gars pour organiser un meeting virtuel sur, mieux que ça, sur le métaverse. Le truc de Zuckerberg, là. Et le nombre de personnes qui, donc, avaient leur casque et étaient
dans le meeting,
9. Mais voilà, du coup, que ce soit l'Union européenne ou l'État français, on est capable de financer des tonnes des projets qui coûtent absolument 0 euro. Et je sais pas comment ça se fait, quoi.
Mais le problème, si vous voulez, c'est que ça existe partout, les types incompétents, y compris dans le secteur privé, etc. Mais la beauté du secteur privé, c'est que il a une idée farfelue, il la lance. Et puis, d'abord, quand il a plus d'argent, ça s'arrête et il s'est ruiné. Ouais. Tandis que là, il y a eu 300 millions de perdus, qui ont été perdus par vous et moi, quoi, le payeur d'impôts. Et il y a, pour un truc qui n'a ni queue ni tête, parce que vraiment, alors là, j'arrive même pas à comprendre comment ils ont perdu 300 millions. Parce que je vous assure, en tant qu'homme d'affaires, etc., gagner 300 millions, faut se battre, hein.
Ouais, c'est pas évident, ouais.
Faut se battre, parce que ça fait 25 ou 30 ans que je suis... Enfin, ça fait 50 ans que je suis là-dedans. Putain, j'aimerais bien gagner 300 millions une année, hein. Je veux dire... C'est plutôt... Donc, si vous voulez, cette espèce de mépris qu'ils ont pour l'argent public, pour la façon dont ils le dépensent, pour la façon dont, avec des idées, soi-disant, pour être dans l'air du temps, mais en plus, ce qui m'étonne le plus dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Je voudrais bien savoir quels sont les conseillers d'administration publique qui sont réunis, qui ont pris les décisions, qui ont été votés par qui, d'où sont venus les fonds. Il y a une série de choses comme ça. Je sais pas, je trouve que il y a une espèce de mépris maintenant pour l'argent public gagné par les impôts, le travail des Français et tout. Il y a une espèce d'autorisation implicite de gaspiller cet argent.
Oui, surtout dans le domaine de l'audiovisuel. Encore plus que dans les autres.
Ouf, j'aimerais en être sûr, mais quand vous voyez ce qu'ils font dans les hôpitaux, il y a maintenant plus d'administratifs qu'il n'y a de personnel soignant.
Oui, c'est vrai, mais au moins on soigne les gens, quoi.
Bah oui, on les soigne plus parce qu'ils n'ont plus d'argent.
Oui,
c'est pas le gars qui a fait HSC qui va vous faire une appendicite. Hein.
Non, ça c'est clair.
Faut pas déconner. Donc ils servent à rien. Ils servent à rien. Donc vous avez partout des gens qui ont ce que j'appelle des faux boulots.
Mais c'est pareil d'ailleurs, hein, avec le. Si vous regardez les dépenses du CNC, dans quoi on met les projets, c'est complètement.
Mais il suffit d'être copain. Mais par exemple, je connais un nombre considérable de producteurs de films en France qui sortent des films qui sont financés par le CNC et qui se retrouvent après avec 5000 vues. Ouais. Et la fois de l'année d'après, on leur redonne du film pour faire un autre film qui serait encore vu à 5000 vues.
Tout à fait.
Mais quand est-ce que... Je ne demande pas une sélection, je demande une sanction. Encore une fois, tous ces gens-là vivent noblement, dépensent du pognon, n'amènent rien à la communauté. Et il n'y a jamais de sanctions. Quand est-ce qu'on va revenir à la dure réalité?
Je sais pas, parce qu'ils se mettent, en fait, quand vous êtes dans les rouages du truc, vous dites, c'est bon, j'ai fait le job, maintenant j'ai mes copains qui sont bien placés à droite à gauche, et j'aurai toujours mes deniers publics pour financer mes
délires. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que vous faites un film, vous êtes producteur, vous faites un film qui va faire 5000 vues, et vous, producteur, ça va vous faire quand même 1 million à vous dans la poche.
Ouais.
C'est du vol.
Oui. Oui, normalement, c'est comme ça que ça marche, le cinéma.
Mais c'est du vol, donc. On a organisé toute une série de vols dont les victimes sont les petites gens, parce que du coup, il n'y a plus de pognon pour payer leur retraite. Ben oui, parce qu'apparemment, si vous voulez, 4 milliards, quand on a vu le pognon qui a été dépensé depuis 3 ans sur toutes ces bêtises dont on parlait avant, 4 milliards, mais c'est rien du tout. Quoi. Donc, il y a une classe parasite qui a pris le pouvoir et qui pille le reste, mais sans vergogne aucune, au nom de la je sais pas quoi. Ils ont le droit de ne rien foutre et d'être payés noblement. Mmh. Mais moi, j'ai... Souvent, ça paraît idiot, mais par exemple, bon, j'ai pas de problème d'argent personnellement, mais quand je prends un avion ou un train pour aller à Londres, etc., il y a une telle différence entre le club et la classe économie que si le voyage dure moins de 2 heures... Je voyage toujours en économie. Bon, Et un jour, j'étais à Londres à l'époque. J'avais un client qui s'appelait Barings, qui était une grande banque anglaise à l'époque, avant qu'elle saute, avec un type à Singapour, la bombe. Et donc, je vois arriver toute l'équipe de Barings, que je connaissais bien, qui était des gérants de Barings. Ils se mettent tous en première. Alors, je leur dis bonjour, parce que je le connaissais bien. Et puis, tranquille, ils s'assoient. Et d'un seul coup, je les vois devenir tout blancs, parce qu'il y avait Nicolas Barings, donc le propriétaire de la banque, que je connaissais bien aussi, qui rentre et qui va en économie. Mais eux, comme c'est pas eux qui payaient, ils étaient tous en première. Et ben, il y a toute une série de passagers clandestins qui voyagent en première en France. Et il est temps que...
Ils foutent en seconde,
Mais surtout qu'ils cessent de voyager, parce qu'ils vont, ils vont nulle part, quoi. Je trouve ça, mais insensé. Et ils sont tous de gauche, hein. Ils volent le peuple, mais ils sont tous de gauche. Ils ont très bonne conscience.
Ouais. Bah, vous êtes obligé d'avoir une bonne conscience, hein, quand vous faites ça. Parce que si en plus vous avez une mauvaise conscience...
Vous le faites pas, vous allez travailler.
Ouais. Non, c'est sûr, moi je suis quelqu'un qui une personne de droite, donc j'ai des états d'âme, donc je me permettrai pas, par exemple, de voler l'argent public pour faire des trucs à la con, quoi. Bon, bref, voilà pour la plateforme Salto, donc énième
c'est intéressant que vous le mentionniez, parce que c'est vraiment le symbole de l'effondrement moral de tous les gens de gauche, de voler l'argent des pauvres. C'est comme s'ils allaient piquer dans le tronc à l'église. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils sont en train de piller les petites gens. Ça menace.
Oui, et puis on rajoute des taxes, on les augmente, enfin, notamment cette question de la redevance télévisuelle. Je crois que c'était avec ça que ça a été payé le truc Salto, où le CNC s'est financé avec une taxe en fait, sur le ticket de cinéma. Donc à chaque fois, on grappille un peu sur les petites
dépenses. Mais personne ne le voit, ça n'a aucune importance. Ouais.
Voilà, on ne s'en offusque pas, et puis derrière, on ne regarde pas, on ne vérifie pas si c'est bien employé.
C'est pas qu'on ne regarde pas, on ne vérifie pas, c'est qu'on en profite.
Oui, non, mais je veux dire,
on n'a pas les moyens de vérifier.
Nous, les consommateurs. Oui,
on n'a pas les moyens.
On peut voir, par exemple, sur le CNC, les dépenses du CNC.
On peut voir, mais ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas voir leurs films à la con.
Oui.
Mais ça n'a qu'une inflation en eux. Ils s'en foutent, puisque c'est les films américains que tout le monde va voir, qui vont payer un maximum de cette taxe. Et puis, donc, c'est les films américains qui financent les branlotins français.
Oui, c'est ça. Surtout les films un peu nuls, ouais.
Et en plus, ils sont tous anti-américains pour en rajouter le truc. Qu'est-ce que ça m'énerve.
Enfin, bref, sujet suivant pour détendre un peu l'atmosphère, on a la balance commerciale.
Oh.
Alors la balance commerciale, on a déjà parlé plusieurs fois. Je crois que la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était parce que toute l'année, on avait eu 100 milliards de déficit de la balance commerciale. Et on avait dit, c'était déjà un record, mais on avait dit, ils sont capables de faire encore.
Mais ils continuent à creuser, vous savez, c'est ce qu'on avait dit. Ils sont au fond du trou, mais ils continuent à creuser.
Et ben ils ont fait pire. On est passé de 100 à 164 milliards de déficit.
On va arriver à 300, allez.
Non, on peut même dépasser peut-être le pays.
Quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite, comme disait Pompidou. Mais écoutez, je vais vous expliquer un truc qui est très simple, finalement. Aujourd'hui, je crois que l'État français, c'est quoi, 62% du PIB?
Ouais, quelque chose comme ça.
On est à peu près 62% du PIB. Bon. Tous ces gens qui travaillent dans l'État français, comme on vient de le montrer dans l'exemple précédent, ils travaillent dur, ils sont des gens sérieux, honnêtes, convenables. Bon, il n'y a rien à dire. On ne va pas dire du mal des fonctionnaires, on ne tire pas sur une ambulance. Hein, donc, c'est pas. Mais ils ont tous une caractéristique commune, ces gars, c'est qu'il n'y en a aucun qui travaille à l'exportation. Aucun ne travaille pour l'exportation. Le fonctionnaire de base, si vous voulez, l'exportation, il ne sait même pas ce que c'est. Mais par contre, ils aiment bien porter des voitures allemandes et prendre leurs vacances à Bali. C'est ce que je veux dire. Donc, les importations, ils savent faire. Les exportations, ce n'est pas leur truc. Et donc, plus le poids de l'État français monte dans l'économie, plus il y a de gens qui travaillent. Pas pour l'exportation. Non ?
Bah, oui, non, effectivement.
Maintenant, vous devez avoir 60% de la population en France qui importe et qui exporte rien.
Oui, bah oui.
Et donc, la balance commerciale, plus l'État progresse dans l'économie, automatiquement, plus elle va se détériorer. C'est l'envers et l'endroit de la même pièce de monnaie. Donc, les gens veulent plus d'État. Eh bien, ils ont plus d'importations. Jusqu'au moment où on ne pourra plus payer nos importations. Parce que en fin de parcours, vous payez vos importations avec quoi ? Avec vos exportations. Et le reste du temps, vous donnez du crédit si vous avez un petit trou. Vous empruntez. Mais jusqu'à quand les gens vont-ils nous prêter de l'argent pour qu'on puisse acheter leurs produits alors qu'ils savent qu'on va les payer avec de la monnaie qui ne vaudra plus rien ? Donc, bah c'est assez facile à dire. Bon, ça se terminera comme ça s'est terminé au Venezuela, comme ça s'est terminé à Cuba. Contrôle d'échange, interdiction de sortir du territoire. Et puis voilà, quoi. On a commencé, et on le voit très bien, moi. Je le vois un peu moins bien, parce que autrefois, je venais en France à peu près une fois tous les 3 mois, mais je vivais hors de France, et donc j'ai vu l'espèce de... Je la voyais physiquement, la dégradation du niveau de vie, les aéroports qui devenaient de plus en plus sales, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous arriviez à des aéroports d'Asie qui étaient nickel, puis vous arriviez à Roissy, vous disiez... Pas terrible. Mais vous le voyez dégradé comme ça. Et donc, on va continuer à baisser de façon inexorable jusqu'au moment... où les pays étrangers ne nous feront plus crédit. Et à ce moment-là, comme on ne pourra plus emprunter, notre niveau de vie baissera de 50% d'un seul coup. Parce qu'on n'en pourra plus rien acheter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C'est en quelque sorte, la balance commerciale, c'est exactement la contrepartie de votre histoire qu'on a traité juste avant. Comme on a des centaines de milliers de gens qui travaillent dans ces faux boulots, en pillant l'État, eh ben, la conséquence, c'est que on a une balance commerciale à 150 milliards de déficit. Ben oui, c'est normal, les gars.
Et qu'est-ce que vous préconiseriez pour, justement, contrecarrer cet effet-là ?
Ben, c'est toujours ce que j'ai dit. Il faut commencer par faire un audit des dépenses de l'État. Et d'après ce bon Martin, Charles Pratt, là, qui a été viré d'ailleurs, qui est plus magistrat, là, qui a pris la démission parce qu'on l'avait mis à la surveillance des chiottes ou je sais pas quoi, il a quand même 55 milliards de fraude sociale. Il y a quoi, 4 ou 5 millions de cartes vitales de plus qu'il n'y a de citoyens français. Donc, la fraude dont on a parlé sur ce machin-là, les gens qui s'en mettent plein les poches sans travailler, mais c'est partout. C'est devenu le sport national. C'est comment je peux vivre aux dépens des autres.
Donc, commencer par ça. Faire un audit des dépenses de l'État et puis couper là où on peut couper, quoi.
C'est couper tous les endroits où il y a des gens, des passagers clandestins, des gens qui n'y ont pas droit et qui touchent. C'est quand même la moindre des choses, si vous voulez. C'est que vous, moi, quelque part, on paye pour ces dépenses. Tandis que là, il y a des gens qui tirent de l'argent et qui ne payent rien. Il faut simplement... C'est tellement facile, si vous voulez. Puis, c'est ce que disait encore une fois ce bon Milton Friedman. Buvons un coup, comme dit ma fille. Chaque fois que je parle de Milton Friedman, mais il disait, si on paye les gens à ne rien foutre, et si on taxe ceux qui bossent, faut pas s'étonner, le petit chômage augmente, quoi.
Oui. Et est-ce que ça n'a pas aussi un rapport, ce chiffre-là, de la balance commerciale, avec le fait que l'État s'immisce dans le coût du travail ? C'est-à-dire qu'on a un coût du travail qui est très faussé en France.
On a le coût du travail
le
plus élevé.
Tout ça.
Alors, d'après ce que j'ai vu, alors aujourd'hui, c'est passionnant la France, ça devient vraiment très intéressant. Parce qu'on a le coût du travail le plus élevé quasiment au monde maintenant, je crois. On a le coût de l'énergie le plus élevé au monde. Grâce à démantèlement d'EDF, encore un gros succès de l'État stratège. Et puis, on a le coût de l'administration, des réglementations européennes et le plus élevé au monde. Alors, revenons à la balance commerciale. Si on est les plus chers, les moins efficaces et les plus emmerdés par notre État, qu'est-ce qu'on va vendre aux autres ? D'ailleurs, la production industrielle n'est plus qu'à 9% du PIB.
Ouais. Ce qui est absolument ridicule.
C'est plus petit en termes absolus que ce que font les Suisses en production industrielle.
Ouais.
Et ils sont même pas 10 millions.
Ouais, je crois que c'est aussi au niveau de la Grèce.
C'est, mais c'est absolument... Et on est passé en l'espace de 20 ans, de 22% à 9%.
Ouais.
Et après ça, si vous voulez, vous avez tous les gars qui sautent sur les étages, sur les estrades, là, en sautant sur leurs chaises comme des gobelins et en disant « il faut réindustrialiser la France ». Mais...
Oui, en général, on nous dit pas comment.
Non, non, il faut réindustrialiser la France, et moi, si je suis au pouvoir, je l'expliquerai, je donnerai des subventions. Ben, c'est ça, mon grand.
Oui. Oui, c'est ça, on va faire des subventions.
On va faire des subventions, comme disait... Encore une fois, Milton Friedman, il disait, à partir du moment où le gouvernement distribue des subventions par ses fonctionnaires, la première chose qu'un homme doit faire quand même, c'est acheter le fonctionnaire. C'est tellement évident.
Donc voilà pour ce sujet de la balance commerciale. J'ai un autre sujet qui est un sujet un peu au long cours maintenant. C'est-à-dire qu'on a une déclaration du chef de Wagner qui dit que l'armée russe, et notamment le groupe Wagner qui est vraiment en tête sur ce plan-là, va prendre donc la ville de Bakhmout en Ukraine d'ici mars-avril, en gros.
Bon, c'est fait, Bakhmout c'est déjà tombé. Enfin, quasiment.
En tout cas, c'est ce que dit le chef de Wagner. Même si, alors, il est pas content quand même parce que donc avant cette organisation, donc qui est une milice, pouvait recruter en fait des prisonniers russes. Et aujourd'hui, l'État russe ne les laisse plus faire. Donc il se plaint un peu. Il se dit bah si c'est comme ça, nous on va avoir de moins en moins de soldats.
Il va devoir les payer plus.
Oui, vous les payez plus, ouais.
Oui, ça me paraît une bonne idée.
Oui, mais après, forcément, s'il y a de moins en moins de...
S'il y a moins en moins d'offres, et ben, j'imagine que le prix des soldats va monter.
Oui, c'est assez probable.
Mais vous savez, c'est ce qu'on disait en France autrefois, où il y avait des armées professionnelles. On disait pas d'argent, pas de Suisse. Et pourquoi on disait pas d'argent, pas de Suisse? C'est parce que les Suisses, c'était les meilleurs soldats en Europe, et qu'ils étaient tout à fait d'accord pour venir se battre pour vous. Mais il fallait les payer. Si vous les payez pas, ils s'en allaient.
Ouais.
Ben, donc on est en train de faire des progrès puisqu'on est en train de sortir péniblement des armées nationales de la levée en masse, etc., de la Révolution française qui a changé l'art de la guerre en introduisant les tueries de masse. Quoi. Mm-hmm. À la place de tuer quelques soldats professionnels, on s'est mis à tuer des centaines de milliers de paysans.
Et c'était les guerres de peuple.
C'était les guerres de peuple contre peuple. Ça a été une des grandes inventions de la Révolution française. Autrefois, il y avait des spécialistes qui allaient se battre dans un coin de campagne et puis tout le monde s'en foutait. Quoi. C'était pas bien.
Oui, on avait des armées de 10 000, 15 000 personnes. 10 000 personnes
qui allaient se taper sur la gueule. Et puis bon, c'était des Suisses qui se battaient contre des Allemands ou des Suédois. Donc, les Français n'étaient pas très... Donc on est en train enfin de faire un progrès, on retourne à la professionnalisation de la guerre. Et ce qui me paraît un très bon truc, et ce qui veut dire aussi qu'on va peut-être cesser à partir du moment où c'est un matériel qui a de la valeur, parce qu'un soldat professionnel bien entraîné, ça a beaucoup de valeur, on va peut-être enfin cesser de faire tuer des gens à droite, à gauche et au travers, qui n'ont aucune valeur parce qu'ils n'ont coûté rien, c'est-à-dire le clampin de base, vous et ouais. Moi, quoi. Enfin, tout ce que je raconte, c'est des bêtises, hein, mais c'est simplement pour montrer que de la même information, M. Wagner, qui a du mal à trouver ses soldats, je tire une information extrêmement favorable que le cours du soldat va monter. Et donc, on va peut-être commencer à économiser les soldats à la place de les massacrer.
Peut-être, oui, c'est possible.
Donc,
ouais,
donc pour moi, c'est donc un progrès considérable. Mmh. Je suis enchanté que M. Wagner ait du mal à trouver des troupes. Mmh. Ça me paraît enfin une bonne nouvelle.
Mais en tout cas, ce que je retenais de cette information, c'est pas tellement la prise de Bakhmout d'ici avril, c'est pas tellement ce qui m'intéresse, mais c'est que j'ai l'impression que ce soit dans la communication d'un camp comme dans l'autre, on fanfaronne pas énormément et on a cette forte impression que le conflit s'enlise et que voilà, les lignes de front se stabilisent.
Je suis pas sûr qu'il s'enlise parce que quand je regarde, parce que je regarde ça avec beaucoup d'intérêt, inutile de le dire. Vous avez des cartes qui sont publiées fréquemment avec le front russe, donc devant le Donbass et le Donetsk, là, puis ça avance, ouais. Et puis vous voyez que ça avance tout doucement. Donc l'impression que ça donne, c'est que, mais je peux me tromper, encore une fois, je suis pas un spécialiste de la chose militaire, même si ça m'intéresse beaucoup. Ce qui a l'air de se passer, c'est que les Russes ont une supériorité d'artillerie absolument incroyable. Et donc, si j'ose dire, ils bombardent sur les 20 km qu'il y a devant leurs troupes de façon absolument intensive, il n'y a pas un trou dans lequel il n'y a pas deux obus qui tombent. Puis quand ils sont à peu près certains qu'il n'y a plus personne dans les 20 km, ils avancent de 20 km et puis ils recommencent à bombarder les 20 km suivants. C'est-à-dire que pour la première fois dans leur histoire, les Russes font une stratégie militaire qui cherche à économiser leurs soldats. Parce que d'habitude, ils n'en avaient rien à foutre, ils en avaient tellement qu'ils les faisaient tuer. Donc, c'est une grande nouveauté, ça. C'est le coup de la Russie qui économise ses soldats. Ça, c'est un truc nouveau, ça. Il faut dire, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, ils ont une démographie affreuse, mais enfin...
Ouais. Oui, c'est sûr, si on se souvient
donc,
de
pour moi, le problème, c'est que les Ukrainiens avaient bâti toute une série de lignes de défense tous les 20 km comme ça, mais à un moment ou à un autre... La ligne de défense va s'arrêter, il n'y aura plus rien, parce que on a fait 60 ou 100 km. Et à ce moment-là, je vois pas très bien ce qui va arriver à l'armée ukrainienne, quoi. Il n'y aura plus de ligne de défense. Donc, je sais pas. Moi j'ai l'impression, comme je vous le dis toujours, s'il y a deux pays qu'il faut jamais attaquer, c'est l'Afghanistan et la Russie. Et les États-Unis ont décidé d'abord d'attaquer l'Afghanistan avec le succès qu'on a connu. Et puis ensuite, ils ont décidé d'attaquer la Russie, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est les Américains qui ont attaqué la Russie. Il ne faut pas raconter l'histoire, même si la guerre a commencé par là. La guerre officielle a commencé en mars de l'an dernier. Et pour moi, ce qui se passe, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, parce que si les États-Unis perdent cette guerre, parce que c'est leur guerre, hein, ceux qui l'ont voulu, il n'est pas du tout impossible que ça entraîne la disparition de l'OTAN. Parce que l'OTAN est passée d'une alliance défensive au moment des Soviétiques à une alliance offensive. Elle est tapée sur l'Irak, ils sont mis à taper sur tout le monde et son petit frère, la Serbie, etc. Et donc, depuis la guerre de Corée, les États-Unis ont fait match nul. La guerre du Vietnam, ils l'ont perdu. L'Irak, ils l'ont perdu. La Syrie, ils l'ont perdu. L'Afghanistan, ils l'ont perdu. Si maintenant, ils perdent, les gens vont se dire, mais exactement pourquoi je suis dans l'OTAN ? À quoi ça me sert, la protection militaire américaine ?
Tout dépend selon moi, parce que même s'ils perdent en Ukraine... Je trouve que ils envoient quand même un signal positif à leurs alliés dans le sens où ils soutiennent un pays qui n'est même pas dans l'OTAN.
Justement, qu'est-ce qu'ils en foutent ? Nous, on n'en avait rien à faire. Mais par contre, vous êtes allemand et on vous fait sauter le truc dans lequel vous avez dépensé une trentaine de milliards de dollars pour amener du gaz de Russie, ce qui est un acte de guerre contre l'Allemagne qui a été fait par les États-Unis pour empêcher les Allemands d'avoir une porte de sortie. Vous dites, mais j'ai des gens qui me protègent comme ça, j'en ai pas vraiment besoin.
Ouais, après, vous savez, les Allemands, en ce moment, ils sont pas très là-dessus. Hein. Il y a eu des manifestations il y a pas longtemps en Allemagne pour demander au pouvoir de livrer des armes en Ukraine. C'est-à-dire que.
Il est possible. Les Allemands, ils m'ont jamais ébloui par leur capacité à prendre des décisions politiques. Ça, c'est pas nouveau. Ça se saurait si l'Allemagne était. Comme je l'ai souvent expliqué, c'est un pays romantique. Non, mais je veux dire par là. À quoi honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas à quoi sert l'OTAN.
Bah, après, vous savez, ça marche un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que
Russie avait demandé à rentrer dans l'OTAN. Et puis, il semble que les États-Unis aient besoin d'un ennemi.
Oui, moi, alors ça, c'est vrai.
Ils ont leur mitterrand industriel à faire fonctionner. Donc, ils ont toujours besoin d'un ennemi. Ils ont toujours besoin de quelqu'un qu'ils détestent. Alors, ils pensent que le machin-là, ça va être fini bientôt et que l'étape suivante, ça sera d'aller se payer la Chine. Mais je voudrais vous donner un exemple sur la Chine que les gens ne savent pas. De 1400 à 1900, c'est-à-dire, c'est long, 500 ans, la Chine n'a jamais été en guerre. La Chine n'est pas un pays belliqueux. Mm-hmm. Ce qui les intéresse, c'est l'Empire du Milieu, c'est eux.
Oui, ouais, bien sûr.
Et puis, ils veulent surtout qu'on leur foute bien la paix là.
Oui.
Pourquoi les États-Unis vont-ils attaquer la Chine ? Pourquoi c'est devenu l'ennemi ? Vous pouvez m'expliquer ? Qu'est-ce que leur ont fait les Chinois ?
Ça, je...
Vous voyez ce que je veux dire ? Mais qu'est-ce que leur ont fait les Russes ? Qu'est-ce que leur ont fait les Russes ? Pourquoi Brzezinski En 1985, décidé qu'il fallait qu'il y ait une guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Ils ont besoin effectivement d'un méchant.
Pourquoi ils ont besoin d'un méchant, mais ils ont... oui, mais nous, est-ce qu'on a besoin de soutenir un gars qui est paranoïaque?
Poutine expliquait justement dans un de ses discours de février 2022 que justement il avait eu une fois une discussion avec Bill Clinton. Donc c'était donc nécessairement, ça devait être en 99 quoi.
99, oui.
Où il discutait avec Bill Clinton. C'était un moment où Poutine était beaucoup plus orienté vers l'Occident.
Mais surtout, ils avaient besoin de nous, et bien nous on était très occupés à les piller à l'époque. Donc ça
et donc il demande à Bill Clinton comment la Russie pourrait faire pour entrer dans l'OTAN. Ça l'intéresse. Et Bill Clinton, je ne sais plus comment il avait répondu exactement, mais il lui avait, selon Poutine, répondu avec un grand dédain, quoi, comme s'il lui avait dit une ânerie. Quoi. Donc effectivement, on voit par rapport à cette attitude-là qu'ils avaient besoin d'un méchant, que en fait, si la Russie rentrait dans l'OTAN, ça annulait en quelque sorte la raison d'être de l'OTAN.
Mais c'est bien pour ça que Poutine voulait y rentrer, pour pouvoir économiser de l'argent. Mais encore une fois, si vous voulez, moi, depuis les années Clinton, les États-Unis ont attaqué sans justification aucune la Serbie, et c'est toujours la même justification. Il va y avoir un génocide. Et puis ensuite, on va voir, et puis il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien qui se préparait, c'était que dalle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils ont, au moment de l'affaire du Koweït, la première invasion, il y avait un génocide qui avait lieu, les soldats tuaient tous les enfants dans les couveuses, et puis en Koweït, les soldats irakiens. Mais on s'est rendu compte que c'était du pipeau. Donc, j'ai 80 balais. Et toutes les guerres des États-Unis ont commencé par une. Par exemple, la guerre du Vietnam a commencé par des vedettes nord-vietnamiennes qui avaient attaqué des bateaux américains dans le golfe du Tonkin. Et c'est là-dessus qu'ils sont lancés en guerre, qu'ils ont commencé le bombardement. Mais on sait maintenant que c'était faux, que ça n'a jamais eu lieu. Donc à chaque fois, on nous fait le coup du génocide, on a été attaqué, il faut qu'on réponde, et à chaque fois, c'est du pipeau. Les armes de destruction massive de l'Irak.
Et Kadhafi aussi.
On a été cherché, j'ai pas trop quel... Donc, à quel moment va-t-on décider que le coup du génocide où on a été attaqué, ça commence à fatiguer un peu, quoi. Donc, j'essaie de dire aux gens, mais pourtant Dieu sait que je suis, encore la moitié de ma famille est aux États-Unis, enfin, j'essaie simplement de dire, mais à quoi ça nous sert à nous, Français? Pourquoi se coller avec ces malades mentaux? Ils sont fous. Aujourd'hui, je peux partir du principe que le monde militaire ou industriel des États-Unis est devenu complètement fou. Et je vois pas ce qu'on a gagné à ce... Et on m'explique que les... la première chose qui meurt dans le cas d'une guerre, c'est la vérité, comme disait je ne sais plus qui. Donc, je regarde cette guerre avec beaucoup d'intérêt, mais... Je me demande pourquoi on fait tuer 130 000 jeunes ukrainiens.
Bah après, pour eux, ils défendent leur pays.
Ben, vous savez, vous êtes gentils, mais les gars qu'on a amenés à la boucherie à Verdun, ils défendaient leur pays aussi. Ils y allaient de bon cœur, mais
oui.
Ça ne veut pas dire que, puis après ça, 30 ans après, on se serre la main avec le Premier ministre allemand.
Ouais,
on aurait peut-être pu commencer par faire l'économie de 2 millions de morts à Berlin, à Verdun, ça aurait été plus malin.
Organiser
un référendum en Alsace-Lorraine pour savoir si vous voulez être français et allemand, et ça nous aurait économisé 50 millions de personnes.
Oui, mais
on aurait pu faire un référendum dans le Donetsk. Et dans le Donbass, et puis dire ce que vous voulez être.
Mais justement, c'est un parallèle intéressant, parce que ce qui s'est passé justement vis-à-vis de la question de l'Alsace-Moselle, c'est précisément qu'il y avait un État qu'il voulait, l'autre État qu'il voulait, et ensuite ceux qui vivaient...
avis à la population.
Ceux qui vivaient, je ne sais pas trop ce qu'ils voulaient, mais...
On avait demandé l'avis à la population, on l'aurait fait.
Et des millions de morts sont...
On aurait pu faire l'économie de millions de morts si on avait organisé une consultation électorale en Alsace-Lorraine en 1880 pour dévoiler votre français ou l'être allemand, et puis comme ça il n'y aura pas eu d'histoire. Quoi.
Oui, c'est ça. Le truc, c'est que personne n'avait envie de la faire, en tout cas pas
surtout
dans
pas
les
marchands d'armes.
Oui,
surtout pas les marchands d'armes.
Ni les gouvernants, ni les marchands d'armes. Et
les gouvernements ont tendance à être financés par les marchands d'armes, c'est curieux. Et les marchands d'armes ont tendance à être financés par les gouvernements aussi. Quand vous pensez que les États-Unis dépensent plus en dépenses militaires chaque année que les 20 pays suivants, mis ensemble,
oui.
et qui perdent toutes les guerres. Ça fait 40 ans qu'ils n'en ont pas gagné une.
C'est vrai, c'est quand même. C'est une quand même,
vous dites, moi, j'en ai pas beaucoup pour mon argent. Je serais américain, je dirais, les gars.
C'est vrai, il n'y a pas de retour sur investissement.
Le retour sur investissement, il n'est pas terrible.
Ouais, c'est pas faux.
Donc, cette histoire de. Si vous voulez, vous avez toute une série de mensonges qu'on nous raconte. On en a parlé, de l'empire du mensonge, etc. Et je pense que cette guerre contre l'Ukraine fait partie de cette histoire du mensonge. On nous raconte des cracks. On ne nous dit pas la vérité. On nous présente des informations qui sont tronquées. Donc, ben voilà, je regarde ça, je me dis, ben, il faut attendre que ce qui s'est passé sur les vaccins se passe sur la guerre.
Ouais.
Qu'on ait enfin accès à la vraie information.
Effectivement, oui, ce serait une bonne chose, parce qu'encore une fois, on est obligé derrière, du coup, d'avoir un camp du complètement pour, un camp du complètement contre, et il y a des erreurs, des choses inexactes des deux côtés, et derrière la vérité et la véritable victime, quoi.
Et surtout, c'est à partir du moment où, à la place, si vous dites la Russie a des intérêts, l'Ukraine a des intérêts, qui peuvent s'opposer. On va essayer d'organiser une réunion pour qu'on voit ce que l'un ou l'autre peuvent lâcher sans qu'il y ait conflit. Mais à partir du moment où vous dites « Moi, je suis le camp du bien et toi, t'es le camp du mal », il ne peut pas y avoir de réunion où vous faites un... Vous dites « Mais non, si vous êtes pro-Poutine... » Et moi, je te dis aux gens, écoutez, De Gaulle, il était contre la ligne Maginot, et c'est pas parce qu'il était pro-Hitler, c'est simplement parce que la ligne Maginot était une connerie. Mm-hmm. Je prétends que cette guerre est une connerie, que les responsabilités des États-Unis dans le déclenchement de cette guerre sont tout à fait importantes, et que on aurait peut-être mieux fait de l'éviter, de se mettre les gens à discuter entre eux pour trouver une solution. Et on l'avait trouvé avec ces accords de Minsk. Et ils n'ont pas été respectés.
Ouais, c'est vrai que ce qui est très fatigant dans ce débat, c'est que tout le monde se traite de un coup de collabo, de munichois, de voire pire.
Mais munichois, moi j'ai dit aux gens, ceux qui rentrent dans le lard de tout le monde, qui vont de guerre en guerre parce que personne ne les arrête jamais, c'est les États-Unis. Ça fait 5 guerres qui déclenchent, et alors que la Russie, c'est la première. Donc on doit dire la Russie maintenant, elle va attaquer Brest la semaine prochaine, et puis les États-Unis, ils ont attaqué 5 pays dans les 20 dernières années. Et on nous explique qu'il faut être munichois si on est... Ben, attendez une seconde, on pourrait peut-être commencer à arrêter les États-Unis, non? C'est eux qui... Et personne ne songe à arrêter les États-Unis. Les munichois, hein, ils sont tous... Vous voyez, ce que j'essaie de dire, c'est si la puissance impérialiste est criminelle aujourd'hui, c'est les États-Unis, hypothèse d'école. Qu'est-ce que font nos hommes politiques pour l'arrêter, cette puissance impérialiste et militaire?
Ça, c'est sûr, oui. C'est...
Pourquoi les États-Unis seraient toujours le camp du bien? Je sais pas, moi.
Oui, c'est sûr. L'exemple le plus flagrant récemment, je pense que c'est l'Irak. Le plus énorme.
La Libye qui a été détruite complètement. Maintenant, il y a à nouveau un marché des esclaves à Tripoli. Mm. Tout va bien, les gars. C'était un pays qui marchait bien, la Libye.
Des filiales d'immigration clandestine, etc.
Donc, encore une fois, si vous voulez, il faut sortir de cette pensée complète. Mais alors, comme vous le dites très justement, si vous commencez à sortir de cette pensée imbécile, complètement dirigée, etc., on vous dit que vous êtes un partisan de l'autre camp. Mais non.
Oui,
si vous êtes partisan de la diplomatie, ça ne veut pas dire que vous êtes partisan de Poutine. Oui. Ça veut dire qu'il vaut mieux parler que de se mettre sur la gueule.
Oui.
Je ne sais pas, moi je trouve.
Oui, c'est du bon sens.
Et donc, mais tous ces gars sur les plateaux, moi, à mon avis, ils devraient tous s'engager chez Wagner ou chez l'équivalent de Wagner en Russie, en Ukraine, quoi. Parce qu'ils ont envie de se battre. Hein.
Après, ça, c'est...
Il y a toute une série de généraux français, je les mettrais bien.
Alors, les généraux, ouais, on a envie de les envoyer un peu. Mais surtout, on ne sait pas trop comment ils sont devenus généraux. Mais après, c'est
pas forcément... Dans les états-majors, sans jamais voir un nombre de troupes, ça c'est sûr. Ça.
Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est pas forcément parce qu'on défend un pays qu'on a envie de se battre physiquement pour lui. Si je prends un exemple...
Si vous dites que les autres doivent se battre, il faut que vous y alliez, vous.
Ouais, mais
par exemple, Bernard-Henri Lévy, il a eu le courage d'aller là-bas, de se montrer pendant 2 heures avec son col blanc, de mettre des treillis, puis de partir au galop.
Oui.
C'est remarquable, ça. De courage, c'est tout à fait...
Mais par exemple, moi, je serais pour envoyer des armes à l'Arménie, pour qu'elle puisse se défendre contre l'Azerbaïdjan.
Absolument.
Ça ne veut pas dire non plus que j'ai envie...
Mais l'Azerbaïdjan, c'est embêtant. L'Azerbaïdjan, si vous voulez, c'est très embêtant, l'Azerbaïdjan, parce qu'une grosse partie du gaz qui passe par la Turquie, maintenant qui va vers l'Allemagne ou la France, ça vient d'Azerbaïdjan. Alors, vous comprenez, à partir du moment où on n'a plus de gaz russe, si on n'a plus de gaz azerbaïdjanais, c'est... Vous demandez quelque chose de très difficile. Là.
Oui, c'est compliqué. Ouais.
Ça devient très compliqué. Vous savez, si... comme les Arméniens n'ont ni gaz ni pétrole, moi j'ai tendance à penser qu'ils ont tort. Hein. Ils sont des victimes.
Bah, ils sont des victimes de l'histoire. Dans une très bonne situation.
Non, c'est, si on leur tape dessus, on ne peut pas dire grand-chose. Hein. Vous savez, à ce moment-là, on n'entendra parler de personne en France pour défendre l'Arménie.
Hein. Oui, il n'y a pas grand monde sur ce sujet-là. Alors que pourtant, le parallèle est tout tracé avec l'Ukraine et la Russie.
Oui, mais l'Ukraine, il y a beaucoup de matières premières. La Russie, il y a beaucoup de matières premières. En Arménie, il y a quelques paysans et quelques vignes. Quoi. Mm. Donc, c'est quand même pas la même intérêt. Hein.
Ouais. Et puis en plus, ça pareil, les deux pays, que ce soit l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sont aussi dans une alliance militaire russe.
Ouais.
Forcément, c'est très embêtant pour les Russes aussi, cette affaire, parce que du coup, ils ont deux alliés.
Mais les Azerbaïdjanais sont de turcophones.
Oui.
Et donc, ils ont une grosse partie de leurs armes qui viennent de Turquie.
De Turquie, tout à fait, oui. C'est un très gros...
Tout ça est très compliqué.
Oui. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui qui dure pas mal de temps. Je crois qu'on est peut-être à plus d'une heure d'émission.
On en a parlé beaucoup trop, mais je me suis énervé, ce qui m'arrive rarement. Mais vous savez, quand le déconomètre est trop élevé, moi je m'énerve, c'est terrible.
Mais vous avez le droit.
Non mais d'habitude, je suis trop vieux pour m'énerver, je me dis. J'ai plutôt envie de rigoler, mais il y a des moments...
Vous avez le droit, je vous permets. Je pense que les gens ne vont pas vous en vouloir. Voilà donc pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de poser votre question en commentaire. J'ai envie d'avoir plein de questions et de sélectionner la meilleure. Voilà, d'avoir une sélection extrêmement pointilleuse. Je vous remercie donc pour votre attention. Je vous dis à bientôt. Nous sommes présents sur plein de réseaux sociaux. Sur Instagram, sur TikTok, sur tout ça. Même si parfois ça peut être compliqué avec l'algorithme, notamment TikTok qui, je crois, nous a mis un petit strike qui est pas forcément très...
Ah bon, pourquoi? Parce que j'avais dit des bêtises?
Je sais pas, en tout cas, ils ont décrété que vous aviez dit des bêtises, peut-être, je sais pas. Ils sont sensibles, hein, TikTok. Parfois, vous dites bonjour, c'est... Attention, c'est limite.
Bon, c'est pas grave. Hein.
Ouais, c'est
juste... Je m'en remettrai.
On s'en remettra, oui. Parfois, ils vous rétablissent comme ça, d'un coup, hop, ils vous rebalancent dans l'algorithme de tout le monde et vous êtes sur une vidéo sur deux.
Je peux dire, j'avais même pas remarqué que j'étais plus sur TikTok, alors vraiment, ça...
Enfin, voilà. Donc, voilà. Je remercie tout le monde comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion.
Et merci beaucoup.